14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia. Aiutateci a ricostruire.
Nous vous le demandons, rendez-nous notre fille. Les gens nous connaissent bien, nous n'avons jamais fait ou voulu de mal à qui que ce soit. Nous ne méritons pas de continuer à vivre sans le sourire de Yara.
Proseguire la nostra vita senza il sorriso di Yara.
Bonjour. Si le meurtrier n'est pas celui que l'on croit, ce pourrait être son frère. Mais si le frère en question n'existe pas, il faudra bien le trouver quelque part, quitte à mettre en lumière un stupéfiant secret de famille. C'est cette traque, celle d'un homme qui n'existait pas sur l'état civil, qui a tenu l'Italie en haleine pendant 4 ans. L'enquête sur le meurtre de Yara Gambirasio, 13 ans et demi, va se transformer ainsi en une discrète chasse à l'homme, ou plutôt un profil ADN dont on va peu à peu se rapprocher après bien des tours et des détours, en remontant l'arbre généalogique de toute une famille. C'est cette extraordinaire histoire, l'affaire Yara Gambirasio, des investigations suspendues à une infime goutte de sang qui va permettre de remonter le passé que je vous raconte aujourd'hui. Un scénario inédit dans l'histoire du crime et de l'ADN. Comment un homme va être arrêté après une enquête de généalogie? Est-il pourtant le meurtrier de l'adolescente? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la disparition de Yara Gambirasio, un soir de l'automne 2010 dans une petite commune proche de Bergame, en Italie du Nord. En quelques minutes, plus aucune nouvelle de cette collégienne qui rentrait chez elle. Ce vendredi 26 novembre 2010, aux alentours de 19h30, Maura Gambirasio commence à s'inquiéter. Il fait nuit et la température est glaciale. Un peu de neige est tombée la veille sur Brimbate di Sopra, une cité dortoir attenante à la ville de Bergame. Sa fille, Yara, 13 ans et demi, n'est pas rentrée de son cours de gymnastique rythmique. L'adolescente a l'habitude de faire ce trajet entre la salle d'entraînement et la maison familiale, 800 mètres de marche, au bord d'une route bien éclairée et où les habitations se suivent les unes après les autres. Le portable de Yara sonne désespérément dans le vide. Sa meilleure amie, Martina, l'a contactée sur son portable par SMS à 18h25, une demande de renseignement sur le prochain cours de gymnastique. Yara lui a répondu à 18h44. Un tout dernier contact entre les deux copines est établi à 18h44 précisément. Martina ne sait pas où se trouve Yara. Même réponse formulée par la directrice du gymnase. Celle-ci explique que l'adolescente a suivi le cours de manière tout à fait normale à 20h. La mère de famille alerte son mari. « J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'ai pensé que quelque chose de grave était arrivé », dira plus tard Fulvio Gambirasio. Les carabiniers sont prévenus, les premières recherches lancées. Le ratissage des lieux avec des dizaines d'hommes au sol appuyés par un hélicoptère est réellement lancé le samedi matin à la première heure. Aucune trace de Yara, personne ne l'a vu. Un enlèvement criminel, l'acte d'un maniaque sont les seules explications. Des semaines vont s'écouler sans aucune nouvelle de la petite gymnaste. 26 février 2011, exactement 3 mois après la disparition, Ilario Scotti, un passionné de modélisme et de petits avions télécommandés, est à la recherche d'un de ses appareils, tombé dans un terrain vague de Quignola d'Isola, à 3 km à peine de Brimbate. La végétation est tellement abondante qu'il a du mal à retrouver son jouet. En repartant, l'homme bute sur un obstacle. Il y a là, à ses pieds, dissimulé par les herbes, un corps en décomposition, une jeune fille posée sur le dos. Les carabiniers n'ont aucun mal à identifier du premier coup d'œil Yara Gambirasio. Elle porte encore son appareil dentaire et les habits décrits par ses parents. Un anorak noir, le sweatshirt que lui avait prêté son cousin, un legging, des chaussettes rayées, des baskets. Le médecin légiste relève de nombreuses coupures infligées à l'adolescente, sans doute avec un cutter. À la poitrine, sous la mâchoire, au cou, aucune de ses blessures ne s'est toutefois révélée mortelle. Il est établi que Yara Gambirasio, épuisée par cette attaque, a perdu connaissance. Son agresseur l'a laissée pour morte. Elle est en fait décédée à cause du froid. Son agonie immobile aura duré plusieurs heures. Yara n'a pas été violée. Elle a rendu son dernier souffle sur ce terrain vague juste après avoir été enlevée. L'enquête piétine. Une dizaine de jours après la disparition, un ouvrier marocain est interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre en urgence un bateau pour rentrer dans son pays. Un autre ouvrier l'avait entendu parler de la petite fille recherchée par la police. Une totale incompréhension. Le Marocain était loin de la ville de Brimbaté quand Yara a disparu, il est relâché. La police scientifique prend le relais, à pied d'œuvre, pour essayer de détecter la moindre trace sur le corps de la victime, sur la manche droite du sweatshirt. Les policiers isolent une trace d'ADN féminin. Il s'agit de celui de Sylvia Brenna, l'une des profs de gym de Yara. Elle est interrogée. Elle ne sait pas pourquoi on a retrouvé sa trace sur ce vêtement. Elle indique qu'elle n'a pas touché l'adolescente et ne s'est pas occupée d'elle lors du cours. Détail curieux, la prof, selon son propre père, aurait beaucoup pleuré la nuit de la disparition, mais Sylvia Brenna ne s'en souvient pas. Son emploi du temps la disculpe. Reste deux coupures effectuées sur le côté droit de la petite culotte que portait la victime. Une culotte remontée de force sous la ceinture, un ADN masculin, une infime goutte de sang est détectée sur l'élastique, un ADN anonyme, baptisé Ignoto Uno pour inconnu numéro 1. Les recherches sont lancées pour identifier l'ADN masculin retrouvé sur les sous-vêtements de la collégienne. Un travail de fourmi qui va demander 4 ans d'efforts et une enquête inédite pour remonter jusqu'au suspect. Face à l'émotion provoquée par la mort de la petite Yara, les carabiniers n'ont pas d'autre choix que de faire feu de tout bois. La scène de crime est à nouveau ratissée, tout comme les habitations alentour. La téléphonie est étudiée afin de croiser toutes les connexions effectuées au soir du 26 novembre 2010 dans le secteur. Les images de vidéosurveillance sont étudiées. Aucun élément suspect n'apparaît. La recherche d'un profil ADN correspondant à celui du meurtrier présumé est tout aussi empirique. L'Italie ne dispose pas de fichiers des empreintes criminelles génétiques pour pouvoir effectuer des comparaisons valables. Il faut donc compter sur la chance au fil des semaines et des mois. 18 000 hommes de la région et bien au-delà, jeunes et moins jeunes, subissent des prélèvements de salive. Mais aucun ne matche avec celui de Ignoto Uno, l'inconnu numéro 1. Les carabiniers ont alors l'idée de tester la population masculine qui fréquente la grande discothèque Sabie Mobili, tout peu proche du lieu du crime. 400 personnes subissent des prélèvements. Les enquêteurs ne s'attendent pas à des miracles, mais la chance leur sourit. Un homme a un profil ADN proche du meurtrier présumé. Il y a des similitudes. Il pourrait s'agir de quelqu'un de sa famille. Les enquêteurs interrogent ce précieux témoin qui n'est pas l'agresseur de Yara, mais qui présente donc un ADN approchant. Il s'appelle Damiano Guerinoni. Il a un frère. Celui-ci donne de sa salive et décline exactement un même profil génétique. À l'automne 2012, des neveux, des cousins de la famille Guerinoni sont à leur tour testés et eux aussi semblent apparentés aux suspects anonymes. Les carabiniers s'intéresse alors au père de famille, Giuseppe Guerinoni, un ancien chauffeur de car qui sillonnait les vallées et les routes de la région de Bergame dans les années 60-70. Giuseppe est décédé en 1999, soit 11 ans avant le meurtre de Yara. Les enquêteurs recherchent une trace ADN du patriarche, notamment dans les effets qui ont été conservés par sa veuve. Celle-ci fournit quelques vêtements ainsi que le permis de conduire du défunt, sur lequel il avait collé avec sa langue et donc avec sa salive un timbre fiscal. L'analyse de cette salive séchée est concluante. L'ADN est formel. Giuseppe est bien le père du suspect inconnu recherché pour le crime. Le chauffeur de car avait de toute évidence un enfant caché. La veuve dit tout ignorer de l'infidélité de son mari pendant des semaines. 532 femmes de la région âgées de plus de 60 ans sont soumises à un prélèvement de salive. Aucun résultat. Les enquêteurs vont visiter tous les villages où le car de Guerinoni faisait halte. Sans succès, l'omerta règne sur place. Impossible de retrouver une trace du fils caché du chauffeur de car, ce seul lien qui pourrait conduire au suspect. Le maréchal des logis chef des carabiniers, Giovanni Mocherini, ne se décourage pas pour autant. Il connaît la région comme sa poche, il interroge les vieux habitants sur l'air d'une simple conversation. L'un d'eux, un retraité qui a connu à l'époque Giovanni Guerinoni, le chauffeur de car, le décrit comme un homme à femme, un coureur de jupons. Il révèle qu'à l'époque, il avait une maîtresse attitrée dans le coin, une certaine Esther Arzufi, Vérification faite, cette femme, désormais âgée de 67 ans, habite Brimbaté d'Isopra, la ville où vivait la collégienne assassinée. Elle est devenue Madame Bossetti et a eu 3 enfants avec son époux, des jumeaux, une fille et un garçon, né en 1970, puis un garçon quelques années plus tard. Les carabiniers veulent vérifier l'ADN de cette fratrie, sait-on jamais. Mais pour cela, ils ne veulent pas attirer l'attention. Ils vont donc employer la ruse. Il faut désormais que les carabiniers puissent approcher le plus discrètement possible les enfants de Esther Arzoufi, épouse Bossetti. Pour cela, ils vont imaginer un stratagème tout aussi simple qu'efficace. Ce dimanche 15 juin 2014, une équipe de carabiniers se déploie près de la localité de Mapello. Ils attendent ici le passage en voiture de Massimo Bossetti afin de procéder à un contrôle d'alcoolémie. Un prétexte pour qu'il souffle sans se méfier dans un ballon. Opération qui permettra de détecter son empreinte ADN et de voir si celle-ci correspond à celle retrouvée sur la petite culotte de la victime. Peu avant midi, Bossetti, qui circule à bord d'une Volvo avec son épouse et leurs 3 enfants, se prête sans aucune méfiance à l'alcotest. L'homme, blond, physique mince et sportif, a 44 ans. Il exerce la profession de maçon, se déplace sur les chantiers du coin avec un utilitaire de couleur blanche. Les résultats de l'analyse ADN ne se font pas attendre. Il est bien le fils secret du chauffeur de car. Le profil du maçon correspond point par point à celui de Ignoto Uno, l'inconnu numéro 1 de la scène de crime. Pas moins de 21 points de concordance, alors que 16 ou 17 suffisent à établir une culpabilité. Les experts indiquent qu'il est possible que cet homme soit à 99,999% l'assassin de Yara. Massimo Bossetti est interpellé, placé en garde à vue, il dit tomber des nues. Il apprend tout à la fois qu'il est suspecté d'un crime et que son vrai père n'est pas celui qu'il croyait, ni celui donc de sa sœur jumelle. Bossetti admet que l'ADN retrouvé sur la petite culotte de Yara puisse être le sien. Mais selon lui, ses traces ont été rapportées par un tiers. Il explique qu'on lui avait volé, à la période du crime, plusieurs outils. Un homme aurait pu s'en servir pour attaquer la collégienne. Les experts ne croient pas à cette thèse d'ADN de contact. Quant aux enquêteurs, ils affirment avoir d'autres éléments contre le suspect. Sa camionnette blanche, un fourgon de marque Iveco aurait été aperçu le jour du meurtre, devant le gymnase où s'entraînait la collégienne par ailleurs. Il est établi que la victime avait, avant sa mort, respiré des particules fines de ciment, particules très spécifiques. Des mêmes particules sont retrouvées dans le fourgon. Une fibre textile accrochée aux cheveux de la victime correspond encore aux fibres des sièges qui équipent l'utilitaire. La stupeur est générale. Bossetti est un artisan apprécié et sérieux. Même le curé de la paroisse en parle dans son homélie du dimanche. S'il est vrai qu'il s'agit de cet homme, pensez à sa famille. Ils disent qu'ils ont trouvé l'assassin. Nous ne pouvons pas nous ériger en juge. En dépit de ces dénégations, Massimo Bossetti reste incarcéré. Il est considéré comme l'inconnu numéro 1 et n'échappera pas à un procès. Des audiences où toute l'enquête va être reprise et qui vont s'étendre sur plusieurs mois. Ce 3 juillet 2015... Massimo Bossetti, visage bronzé, petite barbe blonde, jeans et t-shirt comparé entre 2 carabiniers, dans le box des accusés de la cour d'assises de Bergame. Il n'a cessé de clamer son innocence lors des interrogatoires. Il réitère ses propos devant les juges. « Je suis peut-être quelqu'un de stupide, d'idiot, d'ignorant, mais je ne suis pas un tueur », clame-t-il. Le professeur Carlo Previdere, chef du laboratoire de génétique de l'université de Pavie, ne laisse planer aucun doute sur les conclusions de l'expertise ADN. Son rapport de 113 pages démontre pourquoi le profil de Bossetti et celui de l'agresseur de Yara, tout au moins l'homme qui a empoigné la culotte, sont identiques. Le procureur enfonce, lui, le clou en indiquant que Bossetti était sur les lieux quand l'enlèvement s'est produit. Il rentrait d'un chantier tout proche. Les avocats protestent. Ils vont tout faire pour attirer l'attention sur la prof de gym, Sylvia Brenna. Son ADN ne figure-t-il pas sur une manche du sweatshirt? L'enseignante est appelée à témoigner. Elle ne peut pas dire pourquoi son ADN est sur ce tricot, mais son alibi est indestructible. Vendredi 1er juillet 2016, après un an de procès suspendu à maintes reprises, Massimo Bossetti, 46 ans, est reconnu coupable du meurtre de Yara et condamné à la prison à perpétuité. La cour et les jurés estiment que c'est bien lui qui a ôté la vie à la collégienne, lui infligeant des blessures avec un objet tranchant et des pierres avant de la laisser mourir. Il n'aurait pas supporté qu'elle refuse ses avances. La famille de la victime, les parents Maura et Fulvio Gambirasio, indiquent dans un communiqué « Maintenant nous savons enfin qui a tué notre fille, même si nous savons que rien ne pourra nous la ramener ». Perpétuité donc pour Massimo Bossetti qui n'accepte pas ce verdict. Il le conteste, il va donc continuer son combat judiciaire contre la vérité absolue de l'ADN et faire appel de la décision. Avant d'être rejugé, Massimo Bossetti a adressé une lettre au journal italien Il Giorno depuis sa prison de la rue Glénaud à Bergame. Il clame dans ce courrier son innocence. « Cela fait 3 ans que je dis que je n'ai rien fait. 3 ans que je demande une nouvelle expertise ADN. Vais-je croupir en prison pour un crime atroce que je n'ai pas commis sans qu'on me donne cette possibilité ?» s'interroge le condamné. Lors des débats devant la cour de Brescia, l'accusation va prendre acte des dénégations de Bossetti tout en pointant du doigt des analyses ADN insoupçonnables et la présence du suspect sur les lieux de l'enlèvement le soir fatal. Après délibéré, la cour d'assises d'appel confirme la condamnation à perpétuité. Un an plus tard, la cour de cassation italienne confirme à son tour le verdict. Fin d'une affaire qui reste comme l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle italienne. La mère de Yara Gambirasio avait écrit au pape François alors que l'enquête semblait ne devoir jamais aboutir. Celui-ci lui avait apporté son soutien en lui téléphonant. Même le président de la République italienne avait écrit aux parents pour leur demander d'avoir du courage et d'avoir foi en la justice.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.